Donc je suis prêtre de paroisse depuis voilà depuis je suis prêtre depuis 22 ans, 23 ans et curé depuis une quinzaine d'années. Et donc mon témoignage est le suivant, c'est que quand je suis arrivé en paroisse et voilà, jeune curé, il faut que ça réussisse et tout ça. Et j'ai dit ben tiens, j'ai une belle paroisse, on m'a donné une belle paroisse avec l'adoration jour et nuit. Vous imaginez quand même, hein? Bon. Et en même temps, j'ai repéré, voilà, c'est vraiment bienveillant ce que je dis, hein, des petites maladies. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, à la sortie de la messe, que les uns et les autres étaient un petit peu en, comment dire, un peu en grumeaux entre potes. Et quand vous êtes nouveau, que vous arrivez début septembre, que vous demandez avoir des renseignements pour le baptême de la petite ou du petit, et qu'on vous file un jus d'orange, mais que personne ne vous parle, et rapidement vous partez. Et donc la question de l'accueil, c'était pas évident. Je me suis rendu compte que finalement on n'accueille pas beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais peu de catéchumènes, etc. Les gens priaient parce qu'il y avait l'adoration perpétuelle, mais est-ce qu'ils priaient tous les jours? Je suis pas sûr. Bref, je me suis dit, j'ai des croyants pratiquants, mais sont-ils vraiment des disciples missionnaires? Ont-ils le feu? Et alors j'aurais dit, écoutez, ce que je vous propose cette année, c'est simplement qu'on fasse un parcours. J'avais repéré que dans l'évangile de Marc, il y avait une puissance de transformation de disciples, puisque Jésus, en 3 ans, prend des hommes au bord de l'eau et puis les amène à faire des choses plus grandes que lui, hein. Jean 14 ferait des choses plus grandes que moi. Et j'aurais dit, on va simplement se mettre à l'école de la parole de Dieu et puis on va lire l'évangile. Alors donc j'ai fait ce parcours. Une semaine, ils étaient en petite frate et l'autre semaine, ils avaient un enseignement. Et donc on a vu comment, en fait, l'évangile est une parole puissante. Et puis le fruit, c'est qu'à la fin, ils veulent être missionnaires et tout ça. Bon. Et là, je me suis dit, Paul, il faut pas que tu te trompes dans la mission, parce que si tu amènes les gens et que ça marche pas, oui, les personnes, ils vous suivent une fois, mais après, ils y croient plus. Mon père, on a déjà fait ça, ça marche pas, laissez tomber. Donc, comme je manque un petit peu de confiance en moi, j'ai une amie qui était coach, et je lui dis, eh, tu m'avais promis un peu un week-end sur les talents, tout ça, parce que moi, est-ce que tu pourrais venir? Et tu vraiment, je voudrais que tout un peu l'équipe pastorale, les gens qui sont responsables d'un service, vraiment, ils puissent vivre quelque chose de fort pour que on mette bien le bateau dans la bonne direction, qu'on se trompe pas, et que la paroisse, ça décolle quoi. Enfin, le bateau, l'avion, ce que vous voulez quoi, sur les images. Bon. Et là, elle m'écoute et elle me dit, écoute, Paul, on se tutoie, on est assez proches. Hein, bon. Paul, il me semble que ce qui serait mieux, c'est que je vous voie simplement les prêtres. En fait, on était deux curés in solidum, donc deux curés chefs. Bon, c'est un truc, ça se fait dans certaines paroisses. Bon. Et un vicaire, qui était là depuis 1 an ou 2, peut-être à peine 2 ans, je pense. Et oui, juste. Alors, j'étais un peu déçu parce que je voulais que encore ça traîne. Moi, vous voyez, le but d'une paroisse, hein, c'est l'Église existe principalement pour ceux qui n'y appartiennent pas. Hein. C'est ça la vocation de l'Église. C'est qu'on est fait pour l'extérieur. Bon. Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. L'Église, elle n'est pas faite pour être un club, mais pour aller chercher des gens, etc. Bon. Et là, j'étais un peu déçu, mais je n'ai pas perdu mon temps. Nous n'avons pas perdu notre temps, puisque, en fait, elle a permis de révéler, elle a révélé, elle a mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements entre nous que je n'avais pas mesurés. Donc, je ne vais pas vous faire la version longue parce que ce n'est pas le thème du truc. Vous aurez tout ça dans la vidéo du parcours Vivre ensemble, mode d'emploi. Mais je me suis rendu compte que ma Ferrari, qui était ma paroisse, n'allait pas sortir du garage à cause de dysfonctionnements relationnels. Donc, entre moi et l'autre prêtre, entre moi et l'évêque, entre l'Emmanuel et la paroisse, entre les jalousies entre paroisses, entre curés, une sorte de, comme des écailles qui sont tombées de mes yeux, où, en fait, j'ai vu que, en fait, la charité est ce qui permet de, voilà. Et puis, il y a une dernière, alors c'est Claire qui m'a dit d'en parler ce matin, là, c'est une participante, là. Claire qui m'a dit, mais en fait, il y a eu une troisième étape. Parce que, à propos de, c'était, je fais dans la présentation. Et du coup, après, je vais introduire le sujet et puis on va prier la Vierge Marie. La troisième étape, ça a été de me rendre compte que, en fait, dans les relations fraternelles, dans la mission, le plus gros travail à faire est un travail sur soi. D'ailleurs, mon problème avec toi, vous appelez comment ?
Marielle.
Mon problème avec vous, Marielle, vous savez ce que c'est mon problème avec vous, Marielle ? C'est moi. Mon problème avec toi, c'est moi. Et là, je suis tombé sur ce texte de Jonas qui m'habite depuis un certain temps. En fait, Jonas est le seul prophète qui a un seul message. En fait, c'est lui-même. Il dit « Je suis le problème pour la mission ». Il le dit lui-même hein, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, afin que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Donc, vous avez un prophète, en fait, qu'il faut évangéliser. C'est assez unique dans la Bible. Et je me dis, dans nos communautés, on voit bien comment tel fondateur peut être l'élément bloquant, tel responsable qui est là depuis 30 ans peut être l'élément bloquant, telle personne qui ne voit pas son angle mort, sa feuille de salade sur la dent, vous avez une feuille de salade, tout le monde la voit, sauf lui, quoi. Bon, oui. Et si dans nos communautés, et nous-mêmes, et dans un couple, c'est la même chose, on va voir le conseiller conjugal, oh, les problèmes de couple, on va voir le conseiller conjugal. Le conseiller conjugal, bien sûr que c'est toujours un peu la relation, c'est la systémie. C'est... Mais, écoutez, monsieur, dites-moi, en vérité, est-ce que je suis l'élément bloquant ? Quel est le travail que je dois faire sur moi ? Et souvent, la personne, quand elle vous le dit, et que vous avez le cœur ouvert, bienveillant, en fait, ce qu'elle vous dit résonne. Tu vois ? À mon avis, nous, on est une équipe de prêtres en paroisse, là, on se fait suivre par un couple. Donc, on a un couple qu'on voit tous les un mois et demi. On est quatre prêtres à Paris. Et j'aime bien ça, parce que moi, j'aime bien des retours et tout ça. Et ils m'ont dit, mais Paul, tu vois, il faut que tu sois plus explicite. T'es un peu intuitif comme ça, là. Il faut que tu dises les choses plus explicites. Pense pas que parce que tu l'imagines, les autres comprennent. Ah oui, t'as raison, il faut que je sois explicite, oui. Il faut que je dise les choses plus. Vous voyez, quand on a cette attitude dans l'église, en couple, là où nous sommes, un peu de dire, mais est-ce que je n'ai pas un angle mort, quelque chose que je ne verrai pas, et je suis prêt à l'entendre, et puis des fois, souvent, vous avez deux, trois personnes, elles vous disent la même chose, vous savez. Bon, on peut, souvent, c'est des trucs qu'on fait en entreprise, vous savez, en entreprise, les gens disent, bon, bah, écoutez, ou dans un groupe d'ailleurs, allez, on fait sortir la personne. Et puis, on va dire, quelles sont les trois qualités de Raoul ? Ben voilà, Raoul, on voudrait dire, et ben après, il y a Raoul qui rentre. Tes qualités, c'est, il y a ça, ça, ça. Et puis, là où tu pourrais t'améliorer, il nous semble, eh bien, c'est ça. Vous voyez ? Et à ce moment-là, la personne, vous voyez, c'est un jeu, et la personne, bon, elle accepte, bon. Si elle accepte le jeu, bon, enfin, je sais pas trop, bon, je suis pas en entreprise, mais bon, il paraît que ça marche, bon. Voilà. Donc, voyez, et alors pourquoi? Donc, je termine cette présentation en disant, mais en fait, du coup, à travers ce travail que je fais depuis 20 ans, du coup, c'est trois parcours, hein, je prêche toujours le même, donc c'est Jonas, maintenant que je prêche en retraite, deux fois par an en général. On arrive à l'amour de Dieu, l'amour des autres et l'amour de soi. L'amour de Dieu, c'est Saint-Marc. L'amour des autres, c'est Saint-Jacques. Et l'amour de soi, c'est Jonas. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire de, je sais pas quoi, de, vous savez le sujet, non? Vous savez pas, donc c'est bon. Bon, bah donc tout va bien. Bon. Non, mais c'était comment rendre des chrétiens passionnés, engagés, puissants. C'était un peu ça, ce que j'ai compris, de quoi je vais parler. Donc, du coup, ça va être assez en lien avec la fraternité. Ce que je vous propose. On va prendre 3 minutes. Vous allez, un peu à partir de mon témoignage finalement, de se dire, tiens, on veut être missionnaire, on veut porter du fruit, on veut que ça se passe bien. Il n'y a pas que la mission, hein, porter du fruit, ça peut être, c'est pas que faire des disciples. Et dans un couple, c'est avoir une vie agréable à la maison, ça peut être plein de choses. Bon. Quels seraient les éléments pour soigner la confiance avec ma communauté. Quand j'ai employé le mot de communauté dans mon discours là ce matin, communauté, ça peut être un couple, ça peut être votre paroisse, ça peut être la communauté des béatitudes si vous êtes, je sais pas, ami de l'agneau ou membre de la communauté des béatitudes, peu importe. À vous de voir quelle est votre communauté. Tiens. Hein, on va parler comme ça parce qu'on se rend compte qu'on peut porter du fruit quand on est à plusieurs. Jésus envoie toujours les disciples de par deux, donc il nous faut pour porter du fruit, voyez. Avoir une petite communauté, Normalement, la communauté de base, c'est la paroisse, mais après, certains renforcent cette communauté avec, je sais pas quoi, un groupe in Christo, avec ceci, avec cela. Quelle est, dans la communauté que je décide, que j'identifie, les éléments qui permettraient de soigner ou d'augmenter la confiance? On réfléchit une minute, et ensuite, vous partagez à votre voisin les éléments une minute, et l'autre partage à son voisin les éléments une minute. Ça va? OK. On démarre, donc on réfléchit pendant une minute. En silence, on ne dit rien, et on réfléchit, qu'est-ce qui pourrait augmenter? Oui. Ben, la confiance, qu'est-ce qui fait que je suis bien avec l'autre? Comment faire pour être bien avec l'autre? Dans votre communauté, si c'est votre couple, qu'est-ce que je dois faire dans mon couple pour être bien avec ma femme ou bien avec mon mari? Qu'est-ce que je dois faire dans ma paroisse pour être bien avec le curé, bien avec les machins, Géraldine, et bien avec ceci? Vous voyez? Ben, moi-même, oui. Enfin, des fois, ça, qu'est-ce que je dois demander à l'autre? Je sais pas, moi. Ou vivre avec l'autre? Bon. D'accord? Vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien ensemble, quoi? Et travailler ensemble. Une minute, on réfléchit. Voilà, la première personne échange avec son voisin. Donc, je parle et l'autre écoute. Sans interrompre. Voilà, la personne peut maintenant changer. C'est au voisin de dire ce qui pourrait permettre de soigner la fraternité. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie pour cette deuxième partie d'enseignement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pour porter du fruit, c'est notre désir, hein, le désir du Seigneur, je veux que vous portiez du fruit, un fruit abondant. J'ai utilisé un petit outil de coaching. Vous avez normalement tous un petit papier qui est la pyramide de Lancioni. Lancioni étant un homme, un président d'une société de conseil en gestion dans la région de San Francisco, c'est un catholique, et il s'est rendu compte, sur le petit papier, ben, levez la main, et donc cet homme s'est rendu compte que en fait, une communauté, un groupe, on va dire un groupe, une communauté, si elle veut porter du fruit, elle doit souvent, c'est pas scientifique, hein, c'est le coaching, c'est toujours c'est un peu intuitif aussi quand même, faut pas non plus, mais elle doit souvent, en fait, passer par 5 étapes qui vont nourrir 5 types de besoins. Et donc, c'est cette pyramide que vous avez, c'est-à-dire qu'une communauté, pour qu'elle aille bien, hein, vous l'avez dans la Bible, Actes 2, 42. Il n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Il mettait tout en commun. Oh, ça se passe bien, là. Et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc, on voit bien qu'il y a une communion en Actes 2, 42 qui permet qu'il y ait des disciples qui arrivent. Jean 17, soyez tous un, afin que le monde croit. Hein. Donc, il y a un lien entre la mission, l'unité et la mission. Et donc, il dit j'ai mis en négatif dans cette pyramide. Alors, je vais le dire d'abord en positif, mais c'est plus parlant en négatif. Hein. En positif, c'est quand tu as confiance dans l'autre, à ce moment-là, tu peux lui dire des choses, faire des demandes, avoir des avis différents, soulever des points délicats, ne pas avoir peur de te confronter à l'autre. Et à ce moment-là, si tu as pu te confronter à l'autre, tu vas pouvoir t'engager. On va le voir ce que ça veut dire. Et du coup, tu vas rentrer dans une responsabilisation, c'est-à-dire que le souci de l'autre devient mon souci, etc. Bon. Et du coup, il y aura des résultats. À l'inverse, si, vous voyez, dans ma communauté, au sens large. Alors chacun, vous voyez, là, je vais dire des choses, mais ça va renvoyer peut-être à certains pour leur couple. peut-être à certains pour leur paroisse, peut-être à certains pour leur petit groupe, peut-être à certains pour leur communauté, parce que peut-être certains sont en communauté, peu importe, voyez. Donc c'est à vous, c'est l'Esprit Saint qui va vous toucher comme il veut. Bon. Donc, si dans ma communauté, donc là vous dites ce que vous voulez derrière le mot communauté, je manque de confiance en l'autre, alors à ce moment-là, je vais pas aborder les questions délicates, j'ai peur du conflit. Si je n'aborde pas les points délicats, en fait, je vais pas m'engager, je vais rester en retrait. Et du coup, quatrième étape, je vais éviter, je suis pas responsable, c'est son problème, c'est lui, enfin, ça me concerne pas, voyez, par rapport à ce que nous vivons en communauté, c'est chacun son domaine. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est moi, en fait, hein. C'est les résultats pour moi, c'est pas du tout les résultats de l'ensemble. Alors, cette pyramide, évidemment, plus on monte, moins il y a de choses à dire. Et le niveau le plus important à nourrir, c'est le niveau de la confiance, parce que de là dépend, eh bien, les autres niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la confiance? Alors, je vous ai mis un verset, hein, Première épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Hein, le thème de cette session, c'est Ton nom est une forteresse. Et finalement, le mot lumière, c'est aussi un mot du Christ. Hein, je suis la lumière du monde. Donc si nous marchons dans le nom de Jésus, hein, si nous marchons dans le Christ, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est intéressant, parce que cet petit verset que j'ai choisi de l'épître de Jean, elle est en deux parties, schématiquement, une première partie sur la lumière et une deuxième partie sur l'amour. Dieu est lumière et Dieu est amour. Mais c'est important, c'est que c'est la lumière qui précède l'amour. Parce que je vois comment aimer correctement l'autre, j'arrête de l'aimer avec l'image que j'ai qui me paraît bien. Typiquement, dans les cinq langages de l'amour, beaucoup connaissent les cinq langages de l'amour. Hein. C'est-à-dire que, il y en a qui connaissent pas les cinq langages de l'amour? Non, ça va, tout le monde connaît, c'est un truc. Bon. Dans les cinq langages de l'amour, parfois je peux aimer l'autre avec mon langage à moi. Mais j'ai pas la lumière, dommage, qui me permet de comprendre que son langage à l'autre, il est différent du mien. Le langage, moi, j'aime bien qu'on m'aime en me rendant des services, ou j'aime bien qu'on m'aime en me faisant un petit cadeau, ou j'aime bien qu'on m'aime par des paroles de qualité, etc. Et le problème, c'est que si je n'ai pas la lumière, eh bien, je commence à aimer les autres à partir de moi. C'est-à-dire que, ma chérie, je t'ai offert un grand écran pour qu'on voit les matchs de foot et autre chose, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça sera aussi les films sages, pas de problème, mais je, oui, enfin, d'abord les films sages et après les matchs de foot. Et l'autre, il a offert ce grand écran, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Moi, ça fait 10 ans que j'attends qu'on passe 3 jours ensemble sans les enfants. Qu'on aille un peu loin, que je fasse pas la cuisine. Parce que les menus, j'en peux plus, je sais pas, je ras le bol, moi. Et que et qu'il y ait de la surprise. Voilà. Et ça, il comprend pas. Bon, alors il comprend pas, mais il devine pas. Bon, enfin, je sais pas. Enfin, c'est évident, non? Enfin, bon, voilà. Bon. Alors, la lumière, c'est si nous marchons dans la lumière, c'est faut le prendre dans les deux sens. Là, je l'ai pris un petit peu au niveau psychologique. C'est sûr que je découvre. Enfin, je pense qu'on ne mesure pas que aimer, ça s'apprend. Avoir confiance dans l'autre, c'est ma première marche. En fait, ça s'apprend. Et je me dis quand même, le nombre d'homélies, et dans l'Église, on est quand même assez fort pour parler de l'amour de Dieu, comment aimer Dieu, la lectio divina, l'adoration, patati patata. Est-ce que vous avez entendu des homélies sur comment aimer l'autre? J'ai pas, à part les cinq langages de l'amour, on a pas mal de morale. Souvent, on nous fait la morale, hein. Enfin, je vous la fais, enfin, les gens, les prêtres la font. Faut aimer les autres, c'est le carême, hein. Donc, on pense aux plus pauvres, hein. Oh, voilà. Mais comment aimer l'autre? C'est quand même une science, non? Vous le voyez, ceux qui sont parents, l'éducation, c'est le délire complet. On n'a aucune école. C'est le métier le plus compliqué. Et une fois que tu as terminé d'éduquer tes enfants, tu dis, ben, je recommencerai bien. Enfin, bon, enfin, d'une certaine manière, mais parce que je sais maintenant, mais c'est trop tard, parce que on n'a qu'une vie, donc. Là, j'ai appris, mais il n'y a pas de deuxième chance, quoi. Bon. Bon, donc c'est important, je pense, d'avoir la lumière. C'était ça mon propos. Je prends la lumière sur comment gérer un conflit, comment ne pas utiliser l'autre, comment ceci, comment cela. Et si aussi ce verset-là, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, ça veut dire si nous marchons dans le Christ. Moi, j'équilibre toujours, hein, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, nous sommes pleinement humains et pleinement divins. Donc, vous voyez, quand vous avez un couple, une communauté, ben, je le sens en paroisse, hein, quand j'ai des paroissiens qui sont à fond, d'abord, ils ne sont pas au 10e rang, ils se disputent les places de devant. Et puis, je veux dire, quand vous êtes prêts, que vous sentez que les gens ont soif du bon Dieu, ils ne sont pas là à dire, mon père, la messe était 1h08 aujourd'hui, hein. C'est 1 heure, c'est pas plus. Vous voyez, enfin, oui, est-ce que je... Non, enfin, moi, je... enfin, oui, ils aiment Jésus et quand vous avez des gens qui aiment Jésus, ça vous fait aimer Jésus. Hein? Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui gardent la parole. Qu'est-ce qui va nous mettre en communion les uns avec les autres? C'est la sainteté. Moi, je suis plus proche de personnes qui ne sont pas de ma famille, de sang ou même de ma. De ma communauté, je suis à l'Emmanuel, moi. Mais je suis pas proche, plus proche des gens de l'Emmanuel que de ceux qui sont pas l'Emmanuel. Je suis proche des gens, et c'est pareil pour eux, en fait, qui ont le feu. Moi, je regarde pas les étiquettes. Je m'en fous complètement des étiquettes. Moi, c'est quand quelqu'un brûle du Saint-Esprit, ben, ça me brûle, ça me donne envie d'aimer Dieu, etc. Ça me donne envie, vous voyez. Et donc, plus nous faisons ce travail humain sur nous-mêmes, et nous avons une vraie vie de prière, nous choisissons la sainteté, en fait, on va se comprendre. Moins nous choisissons le Christ, moins nous travaillons humainement, plus les choses sont compliquées. Tu me demandes un service, non, mais attends, c'est pas prévu. Tu me demandes ça à la dernière minute, quoi. Vous voyez? Le don de soi, c'est le père Marie-Eugène qui le dit, hein, dans son, c'est un gros livre qui s'appelle le Je veux voir Dieu. Et il parle des étapes de la vie spirituelle. Il dit à un moment donné, il y a une étape, il la situe plutôt à la quatrième demeure, le passage, bon, peu importe, où il dit en fait la personne à un moment donné, elle va basculer en fait de la générosité au don de soi. La générosité, c'est bon ben tiens mon père, si vous voulez, on peut vous aider hein, avec ma femme, si vous voulez, on peut vous aider. Voilà, dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on peut. Le conseil économique, ça prend pas trop de temps, très bien, ben voilà, on va vous aider. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, vous donnez, bon, petit truc comme ça, puis c'est pas mal, bon. Mais vous tenez le guidon, toujours. Que c'est vous qui dites, je vais aller voir le Père, je veux dire, je puis lui donner une soirée par mois. Voilà. Alors le Père, il dit, écoutez, en fait, le conseil économique, j'ai pas vraiment besoin. Moi, j'ai des adolescents, c'est compliqué dans ma paroisse. Beaucoup, ils n'ont pas de papa, tout ça, ou c'est complexe. Vous êtes une belle famille. Ce qui me plairait, c'est que vous puissiez ouvrir votre maison une fois par mois, mais pas le vendredi, mais le jeudi. Oh, désolé, mon père, parce que le jeudi, c'est notre soirée copain. Ça, c'est on cultive l'amitié, c'est très important. Celui qui nous a préparés au mariage nous l'a dit. Il faut vraiment, vraiment soigner les amitiés. Et donc, voilà. On est désolé, désolé, désolé. Bon, c'est compliqué. Bon, si un jour pour le conseil économique vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir. Hein. Vous voyez? Bon, c'est un exemple, c'est une parabole imaginaire, mais. Donc, vous voyez, le don de soi, c'est quand vous basculez, en fait. C'est la consécration à Marie, hein, du matin. Je te donne mes biens intérieurs, extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions. C'est-à-dire, vous dites, en fait, ma vie est courte. Une belle vie, c'est quand elle est donnée. Donner sa vie, c'est pas faire beaucoup de choses, hein. Donner sa vie, c'est pas s'épuiser. Hein. Il y a un certain nombre de burn-out qui sont liés tout simplement à un manque d'écoute de soi. C'est le parcours Jonas qu'il faut. Voilà. Je m'écoute pas forcément moi-même. Et du coup, à un moment donné, je suis à plat. Donc peut-être qu'aimer le Seigneur, c'est peut-être rien faire dans la paroisse. C'est pas le problème. C'est pas en quantité, mais c'est avoir cette qualité de cœur qui est de dire en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être des saints. On a quelques années pour ça, on ne sait pas très bien combien de temps. Et on va se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit nous guide à partir de la Pentecôte, là, il y a. c'est puissant, les gens ont des idées, etc. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, hein, quand on voit les apôtres avant la Pentecôte, ils sont là dans des petites questions. Hein. C'est qui est le plus grand ? On voudrait savoir qui est le plus grand. Bon, entre nous, parce que tu allais dire que tu allais monter à Jérusalem, donc ça nous intéresse. Tu vas avoir une autorité, on pourrait peut-être t'assister d'une certaine manière, être Premier ministre ou on ne sait pas. Qui est le plus grand ? La fraternité, vous voyez, on n'en parle pas beaucoup. Après, c'est la Pentecôte, ça prend. Donc, c'est toujours la question, vous voyez, c'est de faire ce basculement. Les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus, ils ont une super catéchèse. Après 3 ans, ils ne bougent pas. Ils sont dans la peur au Cénacle. Et là, le Saint-Esprit vient essayer sa part. Donc, c'est comment en paroisse et comment dans nos groupes, on permet aux gens, eh bien, de marcher dans la lumière, dans le Saint-Esprit, pour pouvoir partir et donner toute leur vie. Et du coup, il y a des problèmes qui n'en sont pas. Voilà. Donc ça, c'est les 2 dimensions de la lumière, à la fois la lumière sur des outils pour bien vivre ensemble et la lumière qui est le Christ, qui nous met en communion et qui nous fait frères et sœurs et qui nous permet de, voilà, de produire du fruit. Alors, comme première chose, je ne sais pas ce que vous avez dit dans votre temps de partage, je choisis la connaissance de soi et des autres. J'en ai un petit peu parlé déjà. Il me semble que pour être en communion, il faut se connaître entre nous. Se connaître dans ses qualités. Se connaître dans ses compétences. Se connaître dans ses talents. Alors, les compétences et les talents, c'est pas la même chose, hein. Pour avoir une compétence, c'est pas forcément votre talent. Un talent, c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Une compétence, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. D'accord ? Moi, je suis curé. C'est ma compétence. J'arrive à être curé, je réponds au téléphone, je change les ampoules et je réponds à la police quand elle me demande combien il y a de gens pour la fête Dieu là, qui vont faire la procession, tout ça. Je rassure les gens. Bon. Est-ce que c'est vraiment le lieu où je m'éclate ? C'est équilibrant d'être curé. Je préfère être là, c'est sympa. Vous écoutez, vous allez me remercier après, tout ça, c'est très agréable. donc moi, mon talent, je préfère prêcher des retraites que gérer les travaux de la façade, là, de Saint-Laurent. Donc, faut bien distinguer. Au niveau de ma paroisse, mon conseil pastoral et puis de l'Emmanuel, on se disait, bon, là, la communauté, c'est un peu plan-plan. Et j'aurais dit, mais est-ce que nous connaissons ce qui éclate les frères et sœurs ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Est-ce que vous savez ? Parce que si on ne sait pas, c'est compliqué. On va appeler, vous pourriez faire le groupe des jeunes, là, le jeudi soir, une fois par mois. Ce n'est pas du tout leur talent, ça ne les éclate pas du tout, du tout. Et si on ne connaît pas, vous voyez, les talents des uns là où ils kiffent, quoi, eh bien, on va utiliser facilement les personnes. Et les personnes, je ne sais pas pourquoi, elles, par humilité, fausse humilité, ne se présentent pas. Ils disent pas, écoutez, moi, ce qui me plaît, c'est de faire le clown. Parce que j'ai appris, j'ai des déguisements, etc. Donc, moi, je peux faire le clown, mais je ne vois pas trop dans une paroisse à quoi ça sert. Bon, mais c'est super. Si tu sais faire le clown, on va faire quelque chose, une animation pour la rentrée, peut-être. On pourrait faire quelque chose autour du clown. Bon. Don Bosco, c'est comme ça qu'il a démarré. Don Bosco, c'est un jeune qui arrive dans l'église et puis le sacristain va le mettre dehors et puis l'autre, il lui dit, Don Bosco lui dit, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Ça, ben, j'ai rien fait. Est-ce que tu sais au moins siffler ? Oui. Ben oui, tu sais siffler, ben super, voilà. Est-ce que tu sais jouer ? Oui, je sais jouer. Ben, alors va jouer et amène tes copains, on va jouer ensemble. Donc moi, j'ai découvert que ma secrétaire bénévole de la paroisse, elle s'éclatait dans les camemberts de... Parce qu'elle était à l'INSEE, c'est une haute diplômée de l'INSEE, elle adore faire des statistiques des camemberts, là. Bon. Et du coup, je lui demande pas, denier de l'église, elle me fait des comptes rendus et puis des statistiques, des trucs comme ça. Bon. Mais ça lui plaît. Bon, ben, vous voyez ? Bon. Donc, est-ce que je sais ce qui me, enfin, ce qui me détend? Voilà. Ce qui me détend, oui. Et est-ce qu'on sait ce qui détend l'autre, enfin, au sens du faire, hein, une réjouissance qui est une action, parce que c'est pas simplement aller au cinéma, ça nous détend, bon, mais au sens de la réjouissance, hein. La réjouissance, c'est plus, un peu plus que la jouissance, oui. La réjouissance, c'est, tiens, je rencontre, je suis capable de. Dans cette connaissance des autres, il y a aussi la connaissance des profils de personnalité. Alors, il y a certains qui, en entreprise, ont fait ce genre de truc. Moi, j'aime bien un outil qui s'appelle le truc profil talent, avec les quatre couleurs. Mais ça va peut-être vous parler, ça va être très court. En fait, dans les profils, vous avez quatre types de couleurs, souvent. Alors, après, on est tous un peu les quatre couleurs en même temps. Je ne mets pas les gens dans des cases, etc. Patati patata. Bon. Mais vous avez, parce que c'est souvent, on croit que l'autre fonctionne comme nous. Pas du tout. Vous avez souvent dans des communautés des gens qui sont jaunes. Alors, les jaunes, c'est un peu des gens qui ont plein d'idées à la seconde, etc. Ça, c'est super, c'est des créatifs. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui sont bleus. Alors, les bleus, c'est un petit peu le profil comptable. C'est-à-dire, quand il y a un week-end, ils veulent exactement demi-heure par demi-heure savoir ce qui se passe. Vous voyez? Quand un jaune propose à un bleu quelque chose, j'ai une jaune dans ma paroisse, elle m'a dit, oh, pour la fête de la présentation en temple, on pourrait proposer à tous les gens d'avoir une sorte de, un peu comme une étole de baptême à tous les paroissiens. Faut juste les coudre et voilà, pour les 300 paroissiens. Alors ça, c'est une jaune qui me parle. Je n'avais jamais pensé mettre des étoiles blanches comme le baptême. Donc moi, je suis un peu bleu. Ah ben, je lui ai dit, écoute, là, ouais, 300. Ah, ça va coûter cher, ça. Puis qui va les coudre? Donc là, je lui mets le moral à plat. Une jaune, quand elle a un bleu en face qui lui dit combien ça coûte? Attends, mais tu pourrais te réjouir, non? J'ai une idée géniale. Tu es en train de me dire que c'est pas possible, là. C'est ce que j'entends, moi. Voilà. Or, on a fait les écharpes. Enfin, les écharpes, on a acheté, je ne sais pas quoi, 15 mètres de tissu. Et puis l'autre, elle a dit, c'est simple, une écharpe, vous prenez un ciseau, vous faites. Et on a fait autant d'écharpes qu'il fallait. Enfin, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas besoin de coudre, il fallait juste les découper. Bon. Bon, voilà. Et puis alors après, vous avez dans les profils. Non, parce que le problème, c'est que souvent, on s'encadre de gens qui sont comme nous. C'est-à-dire que les jaunes attirent les jaunes. Vous avez des gens dans une équipe pastorale, ils sont tous pareils, ils ont plein d'idées à la seconde, mais ils ne les mettent pas en œuvre. Parce que mettre en œuvre, ça ne les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse, c'est waouh, on pourrait faire ça, 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 ça. Ensuite, vous avez les rouges. Donc les rouges, ils sont dans l'action. Ils vous disent, bon, ben, OK, on fait les écharpes, dites-nous, on va aller chercher le tissu, on fait le truc, on fait le job. Donc, eux, ils sont dans l'action plutôt, vous voyez. Bon. Et puis après, vous avez les verts. Alors, les verts, c'est simple, ils vous mettent des canapés partout. Enfin, qu'à mon avis, là-bas, après le parvis, là, c'est un vert qui a dû avoir l'idée du truc. Donc, les verts, vous leur dites, bon, on fait la réunion. Alors, ça, c'est un rouge qui parle. Il dit, bon, la réunion, on n'a quand même rien décidé, quoi. Mais c'est pas grave. Regarde, on était tous là. Tout le monde s'est exprimé. C'était un moment de qualité, mais enfin, une communion, mais on n'a jamais vécu ça, quoi. Enfin, c'est super. Bon, voilà. Donc, votre voisin ne fonctionne pas comme vous. Alors, quand vous avez, moi j'ai eu ça en équipe de prêtres. Vous avez un jaune-vert. Donc, plein d'idées à faire ensemble. Plein d'idées à faire ensemble. Ça, c'est jaune-vert, là. Moi, je suis plutôt un rouge-bleu. Donc je lui ai dit, écoute, bah, si tu as des idées, tu les fais. Ça va, hein? À la paroisse, il y a assez de trucs. Mais vas-y, moi je t'empêche pas. Fais, fais. Voilà. Bon. Bon, c'était un peu compliqué, mais bon, ça va. Alors, bon, ensuite, la connaissance de soi. Ensuite, la deuxième chose, à mon avis, qui nous met en communion, C'est la vulnérabilité. Être vulnérable. C'est-à-dire que souvent, on propose à l'autre, on donne à l'autre nos qualités, ce qu'on aime bien faire. Et je pense que les gens nous admirent pour nos qualités, mais ils nous aiment profondément pour notre authenticité, nos pauvretés, ce que nous sommes en fait, sans la statue qu'on s'est créée ou que l'autre nous a créée. Donc, vous voyez, quand on arrive à parler de ces pauvretés à l'autre, sans que l'autre s'en serve pour nous humilier au moment qu'il aura choisi, on rentre dans une véritable étape de communion. Parfois, on a un petit peu l'esprit de revêtir une armure, vous voyez. On est comme ça, on se dit, ben voilà, il faut que je sois bon, il faut que je sois un bon curé, donc voilà, je vais montrer que j'ai de l'assurance, là. Devant les gens, là, je vais bien les regarder, tout ça. Pourquoi pas? Tu peux aussi commencer ton conseil pastoral en disant, écoutez, moi, je ne sais pas du tout animer les réunions. Je ne sais pas faire. Chaque fois, il y en a un qui démarre, et puis dessous, je ne sais pas faire. Pour moi, c'est ça qui est difficile. Pour moi, tu vois, ma chérie, tu me demandes de parler au grand garçon, là. Mais je ne suis pas à l'aise avec lui. Je ne sais pas trop avec son iPad, ses machins, c'est tout, je ne suis pas à l'aise. Vous voyez, et vous avez des gens en communauté, c'est simple, vous leur envoyez un mail, vous dites, tiens, tu pourrais nous aider pour ça, puis vous n'avez pas de réponse. C'est curieux, hein? Ben parce que la personne, elle n'est pas à l'aise, elle ne sait pas, elle hésite, elle sent, mais ben dis-nous. Et plus nous sommes dans la vérité, plus nous sommes touchants. Et je pense à ce témoignage d'un couple qui s'appelle Cyprien et Daphrose Rugomba. C'est un couple du Rwanda, où il y a un procès de béatification qui est en cours. Et Cyprien... donc, est un homme qui était un homme qui a une belle autorité, une belle figure du Rwanda. Il s'est converti. C'est un artiste, un homme politique aussi, chrétien, fervent, etc. Et dans sa vie, il a eu deux vies en quelque sorte, puisqu'il a sa vie sans le Seigneur, et puis sa vie avec le Seigneur. Et dans sa vie sans le Seigneur, il a trompé sa femme. Et un jour, il est dans un groupe de prière avec des gens un peu capés, quoi, un certain nombre d'autorités. Il commence à dire à sa femme, « Tu sais, Daphrose, je voudrais te demander pardon devant les autres parce que je t'ai trompé. » Et sa femme lui dit, « Mais écoute, mais pourquoi tu me dis ça ? Mais tu me l'as déjà demandé, pardon. Et puis c'était aussi de ma faute aussi, je suis coupable. » Et là, Cyprien rajoute, « Oui, toi, tu le savais, mais eux ne le savaient pas. Toi, tu le savais, mais eux ne le savaient pas. » Il a senti le besoin, vous voyez, de dire sa pauvreté, parce qu'il était une figure, donc il est mort assassiné avec sa femme et ses enfants, 6 enfants, je ne sais plus, en avril 94, dans le génocide. Et en fait, vous savez, quand vous êtes une figure comme ça, un Cyprien, que vous êtes artiste, etc., les gens, comme en paroisse, hein, mais mon père, qu'est-ce que vous êtes exceptionnel, vraiment la paroisse avant vous, c'était pas une paroisse, hein, c'est pas... Vous voyez ? Et les gens vous encensent facilement. Et donc, ils vous fabriquent une petite statue comme ça, qui vous livre. Puis vous êtes avec cette statue-là, vous dites où je la mets, qu'est-ce que je fais ? Bon, vous la mettez dans le salon. Puis après, vous dites, mais la statue, elle est quand même pas mal. C'est vrai qu'ils disent des choses pas mal sur moi, finalement. C'est pas totalement faux. Et vous passez votre vie à entretenir votre statue. Ce que les gens font sur Facebook, hein, ils publient leurs belles photos de famille, etc. Ou les prédicateurs, je sais pas quoi, ils disent, j'ai fait une vidéo, il faut que j'en fasse une deuxième, parce que les gens m'ont liké, là. Donc, quand même, je suis pas trop nul. Donc, il faut quand même que je continue, il faut que je soigne ma réputation. Allez, on va mettre une photo là, voilà, avec les enfants là. Ils sont pas mal les enfants là. Heureusement, il n'y a pas de jean déchiré là. Heureusement, parce que bon, c'était. En fait, non. Ce qu'on aime chez toi, c'est ce que tu es. C'est pas la photo. C'est pas la statue. Et donc, évidemment, quand on est dans une communauté, on est capable de livrer nos pauvretés. Eh bien, à ce moment-là, il y a vraiment une communion qui se fait. C'est un enjeu, ça. J'avais été, au bout de 10 ans de sacerdoce, j'avais été à Rome avec tous les prêtres qui avaient été ordonnés en même temps que moi. Et on a été au dicastère du clergé. Donc comment dire, le secteur de Rome, là, de la curie qui s'occupe de tous les prêtres du monde. Et le responsable, le père Mainviel, dans la conversation, on a abordé la question des prêtres qui quittent le sacerdoce. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un prêtre quitte le sacerdoce? Il a abordé ce thème-là. Il nous a dit, vous savez, un prêtre qui quitte le sacerdoce, souvent, il découvre une pauvreté dans sa vie. Il croyait qu'il était fait pour les jeunes, pas du tout. Il n'y a pas de charisme. Il croyait qu'il allait être un bon curé, en fait, ça ne marche pas. Il croyait que sa paroisse allait se remplir, elle ne se remplit pas. Une limite. Et cette limite, eh bien, au lieu de le faire plonger dans la petite voie, l'abandon, eh bien, il se dit, en fait, je suis pas fait pour ça. Moi, je me suis vraiment trompé, quoi. Et au départ, quand on est jeune prêtre, on a toujours une aura naturelle, donc en général, ça marche un peu. On réussit parce qu'on est jeune, tout ça. Et à un moment donné, le Seigneur nous dit, mais écoute, ce que je voudrais, c'est que tu comprennes que c'est moi, ta forteresse. C'est pas tes talents, enfin tes talents c'est sympa, mais c'est moi. Et du coup, parfois, il nous fait passer par des situations qui fait qu'on découvre notre limite. Et cette limite, un peu comme Pierre, vous voyez, qui marche sur l'eau, en fait, soit tu t'enfonces et tu dis, bon ben, en fait, mon couple, je crois que je suis pas fait pour être avec madame ou avec monsieur, je crois que. Soit tu t'enfonces, soit tu cries vers le Seigneur. Et il dit, c'est dommage, parce que c'était là enfin où il pouvait rentrer dans cette petite voie. Dommage. Du coup, conséquence par rapport à la vulnérabilité, deux choses. Non à l'admiration excessive et non à l'exigence excessive. Et non à l'admiration excessive. Celui qui adule un moine le livre à Satan. Et non à l'exigence excessive, c'est-à-dire que je pense qu'entre nous, pour que la confiance soit là, pour qu'on puisse vivre ensemble, il nous faut vivre de la miséricorde. Évidemment, se marier, c'est s'engager à se pardonner. Je suis votre curé. Je ne suis pas un prêtre parfait. Vous allez être déçu par moi. Est-ce que vous l'acceptez? Voilà. La miséricorde. Ce qui ne veut pas dire tout accepter. Bien sûr, parfois il y a des situations, ben, je vais me faire aider, etc. On va pas. Mais d'avoir ce cœur bienveillant qui est de dire, allez, je redonne la chance à l'autre. Après la connaissance, après la vulnérabilité, la troisième chose, il me semble, pour vivre en communion les uns avec les autres, c'est sortir de l'interprétation du réel. Sortir de l'interprétation du réel. On interprète le réel régulièrement. On fait du journalisme. J'ai vécu ça il y a 3 mois au presbytère. Je rentre à la cuisine et à 7h23, je verse mon bol de thé et je me dis, mince, à mon avis, j'ai la messe. Oh, je regarde sur le petit truc, mince, c'est moins de messe. J'avais presque oublié. Bon, je laisse tout en plan, je descends à la sacristie, j'enfile la chasuble et je commence la messe à 7h30. Et pour la petite histoire, il y avait un servant-autel avec une cloche, un grand clerc, parce qu'on a des étudiants dans l'immeuble. Alors, je vous fais le film avec les deux. Hein, bon. Les copains, les trois autres, ils arrivent au petit déjeuner vers 7h40. et ils disent « Ah, dis donc, c'est le bazar, là, sur la table de cuisine. » Et tout laissé en plan. À mon avis, Paul, il a oublié la messe. Ah, il a oublié la messe, quoi. Ça m'étonne pas. Bon, je célèbre rarement la messe à 7h30, mais enfin, bon. Ça m'étonne pas, je sais pas quoi, d'où ils sortent ça. Bon, enfin, c'est pas grave, bon. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont entendu. Moi, à 8h pile, je rentre dans la sacristie, j'ai fini la messe, et le servant d'autel entre aussi, et fait ding-ding avec la cloche. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte. Enfin, vous voyez, on fait du bruit, quoi, parce que quand vous rangez une cloche, elle fait du bruit, et range la cloche. À ce moment-là, les gars, ils descendent à 8h, ils entendent la cloche, ils disent, ah, il en a encore à la consécration. On peut remettre une couche de Nutella, là, c'est bon. Il en est encore à la consécration. J'avais terminé la messe. Moi, je leur avais dit dans le WhatsApp des prêtres que je ne serai pas à la louange car j'ai une réunion au diocèse. Je vous préviens, donc je ferai oraison avant, etc. Et après, je file au diocèse. Je commence les laudes. Que vive mon âme à te louer, tu as posé. Mais ils n'arrivent pas, ils se foutent de moi ou quoi? Et donc, j'ai pesté en disant ils se foutent de moi. Et j'ai pensé qu'ils se foutaient réellement de moi, puisque à 8h08, ils arrivent, la bouche comme ça, tranquille. Et ils étaient tous surpris de me voir. Au Lode. Donc, après, on s'est expliqué. En fait, on a tout interprété. Tout était faux. Je n'étais pas en retard. Ils se foutaient pas de moi. J'avais commencé à l'heure, etc. On a fait de l'interprétation du réel. On passe son temps à parler de choses très concrètes, hein, à interpréter. Exactement comme dans la parabole du fils prodigue. Hein. Et ton fils qui revient après avoir dévoré ton bien avec des prostituées et tu fais tuer pour lui le veau gras. Qu'est-ce qu'il en sait que le petit frère a été voir des prostituées? Il n'est pas sorti de la maison. Ça ne se voit pas sur son jean. Hein. Bon. Vous savez comment s'appelle Bernadette, la petite Bernadette, comment on l'appelle? C'est quoi son surnom au moment des apparitions? Son surnom, c'est la fille du voleur. Pourquoi? Ben parce que en fait, il y a un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Maison Grosse, qui est boulanger, et on lui a volé un sac de farine, un gros sac. Et le boulanger, il a dit, ben, on m'a volé un sac. C'est Monsieur Soubirous. Alors, on met Monsieur Soubirous en prison pendant 8 jours. Puis après, on se rend compte que ce n'est pas Monsieur Soubirous. Donc, on interroge Monsieur Maison Grosse. Pourquoi vous l'avez accusé? Je l'ai accusé car il était le plus pauvre d'entre nous. Et ensuite, la famille est à la rue. Mais heureusement, il y a le cousin, Monsieur Sajous, qui lui a un petit endroit qu'il va pouvoir donner. C'est juste en dessous de chez lui. Et c'est quoi celui en dessous de chez lui? C'est le cachot. Le cachot, la prison de Lourdes. Donc on va donner à la famille Soubirous la prison de Lourdes. Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est bien qu'ils sont coupables. On va renforcer par le réel le mensonge. Jean 18, 29. Pilate sortit donc au dehors vers eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. On te le livre. Si on te le livre, c'est qu'il est coupable. On va pas perdre notre temps quand même. Vous avez vu tous les gardes là? Il y en a beaucoup, hein? Pourquoi il y a tous ces gardes-là? Parce que c'est un coupable. On a pris les moyens pour votre sécurité. Voyez? Donc, on va rentrer dans une attitude bienveillante. J'accepte, je rentre dans cet esprit, j'arrête d'interpréter le réel. D'accord? Bon, il faut que je termine. Enfin, je termine. Je vais faire les autres étapes pour que vous ayez la. j'ai beaucoup insisté sur la première marche parce qu'il me semble que si cette première marche est vraiment là, eh bien, le reste suit. Dans cette première marche, qu'est-ce que je pourrais mettre aussi, oui, l'amour de soi, bien sûr. Si vous aimez, si vous pensez que vous êtes un cadeau pour l'autre, eh bien, évidemment, les choses fonctionnent beaucoup plus facilement entre nous. Peut-être, dans cette première marche, je peux mettre aussi les temps vécus ensemble, gratuits. Prendre du temps ensemble gratuitement. Une communauté où les gens sont cous simplement au boulot, c'est mauvais. Les expériences vécues ensemble aussi. Et quand une paroisse, par exemple, va vivre le congrès mission, par exemple, ensemble, ah, ils vivent quelque chose de fort. C'est beaucoup plus puissant, une expérience vécue ensemble, que de raconter ce qui s'est passé. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, quand on a cette communion, en général, on peut oser le conflit. Un conflit, c'est pas au sens, on va extraire, on va faire de l'extraction des points que, vous savez, que les gens veulent pas tellement aborder en réunion. Il y a des choses, c'est marrant, c'est bizarre, mais on n'en a pas parlé. Et il se trouve qu'on s'aperçoit que le sujet clivant est abordé à l'extérieur de la réunion sur le parvis. Il y a souvent la deuxième réunion, vous savez, après la réunion. Hein. Donc, quand vous êtes responsable, en général, vous n'assistez qu'à la première, mais vous savez que les gens font une deuxième réunion en deux par deux, là. Bon. Donc, quand il y a une communauté saine, en général, il n'y a pas de deuxième réunion, il n'y en a qu'une. Et vous en avez un peu l'avocat du diable qui est chargé de chercher les sujets un peu délicats, là. Géraldine, là, c'est sûr que ça ne te fait pas trop, toi, de faire lundi, mardi, vendredi, ça, ça, ça. C'est OK pour toi. Oui, 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 c'est OK. Ou alors c'est, ah ben non, je ne sais pas vous le dire, ouais, ça me paraît beaucoup. Ou tu penses que tu... Oui, on va extraire. Hein. C'est pas le démineur, c'est un mineur. Le mineur, il va chercher la chose qui est riche en sous-sol, il va l'amener à la surface. Le démineur, c'est celui qui dit, écoutez, non, il y a un sujet clivant, là, on va... Allez, on se tait, on va réciter un Je vous salue Marie, là, hein, tout de suite. Hein. Il va étouffer. Ah, pas de violence, pas... Non. Ça, c'est le démineur. Il faut des mineurs. Vous voyez ? Un conflit n'est pas un problème. Les communautés, elles grandissent par des conflits. Ce qui est un problème, c'est une mauvaise gestion des conflits. Mais en acte 6, vous avez des conflits, un conflit qui est très, très bien mené. Vous voyez ? Bon. Donc, ça suppose qu'on soit ouvert au conflit, au sens à la contradiction. Peut-être que le mot conflit est fort. Mais oui, une personne qui vous fait une tête à 7h25, là, il vous fait la tête, la gueule. Bah vous dites, ça veut dire pancarte, ça veut dire me parle pas. Dis-moi que des choses positives. Ne me dérange pas. Mais le sourire permet la confrontation. Le sourire, c'est quelque chose que j'adresse à l'autre. Hein. Et le sourire, c'est un choix de sourire. Hein. La petite Thérèse, elle en parle dans son manuscrit. Hein. J'ai décidé de sourire à celle que j'aime pas du tout. À ce moment-là, si les gens ont pu dire, je ne suis pas d'accord, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, j'imaginais autre chose, mais vous m'avez entendu, donc je suis heureux, donc je vais m'engager. Les gens s'engagent. Pourquoi ils s'engagent ? Parce qu'ils ont été entendus. J'ai compris que la veillée, on n'allait pas faire, je sais pas quoi, le thème de la petite Thérèse, mais le thème de Carlo Acutis. Bon, moi, j'aurais préféré la petite Thérèse, mais vous voulez Carlo Acutis, ou la Carlo Acutis, très bien. Mais je vais vous aider, parce que j'ai été entendu. Et donc, je vais m'engager. Donc, c'est intéressant, vous voyez, parfois dans une communauté, quand les gens ne s'engagent pas, ne sont pas présents, soit vous faites du moralisme, je vous signale que les engagements du groupe, c'est de venir tous les ceci, tous les cela. Vraiment, ils sont pas fidèles, les gens. Hein. Oh là 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 là. Ils respectent pas leurs engagements. Ça, vous pouvez faire du moralisme. Vous pouvez dire, mais pourquoi les gens viennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait pas un problème, justement, en dessous? En fait, une parole qui n'a pas été donnée, un conflit qui n'est, qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été traité, ou est-ce que c'est pas encore en dessous? C'est-à-dire des relations qui sont pas sympas. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de m'engager parce que la communauté, c'est pas super, super sympa. À ce moment-là, encore 2 minutes, j'entre. Si je m'engage, c'est-à-dire, OK, l'aventure, je la souhaite, à ce moment-là, je vais rentrer dans la responsabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, ton souci, c'est le mien. Gérard, ah ouais, tiens, il a oublié d'envoyer, je sais pas quoi, le flyer pour la communication. Je vais lui rappeler. Ça, c'est une communauté saine où tout d'un coup, vous voyez, on a le souci de l'autre. Si elle n'est pas saine, on va dire, ah Gérard, il a oublié. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, je ne vais pas bouger. Hein. Faut que le responsable, il comprenne. Gérard, c'est pas possible. Donc, on en a marre. Non. Écoute, moi, j'en ai ras-le-bol. Je fais mon truc, je trace, c'est terminé. Je me sens pas responsable. Du tout. C'est ça, vous savez, en tant que curé, moi, j'ai eu 2 types de vicaires. J'ai des vicaires qui étaient dans leur truc, c'était leur activité. Ils font, je sais pas quoi, les scouts, le machin. Et j'ai 2 autres vicaires, c'est marrant, c'était, ils aimaient la paroisse. Ils font les scouts, le truc. Et ils te disent, tiens, on pourrait faire un panneau électronique pour ceci, et puis moi, je vais le construire, le panneau. Tiens, je vais passer un coup de balai pour ceci, alors que je suis pas du tout de nettoyage. Tu vois? Ils vont avoir le sens de l'ensemble. Le souci de l'ensemble et le souci des personnes. Il y en a d'autres, ils ont pas le souci ni de l'ensemble, ni des personnes. C'est leur truc. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait le plus de monde à mon truc. C'est tout. Enfin, évidemment, le fruit de cette responsabilisation, c'est les résultats. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une fécondité. Et qu'on n'est pas là à jouer de manière solo, mais en fait, ce qui nous plaît, c'est de porter du fruit. Le fruit, alors le fruit, je pense que pour nous, il est un petit peu quand même donné par le Seigneur. Hein, je trouve que c'est assez touchant, tous ces catéchumènes qui viennent dans nos paroisses. Mais quand même, il est aussi un petit peu lié, je pense, à ce que je viens de vous faire vivre aujourd'hui. C'est-à-dire une communauté saine, un groupe saint, un couple saint, il attire. Une communauté où les gens se tapent dessus, c'est très curieux, mais on n'a pas envie de venir. Donc, vous voyez, le Seigneur, il fait comme il veut, vous voyez, il peut envoyer des catéchumènes comme ça. La question, c'est est-ce qu'ils vont rester? Ça, c'est une chose. Mais le Seigneur, il nous a donné une intelligence. Bah, disons-nous, en fait, on a tout, comme dit saint Paul, hein, vous avez tout, dans la première aux Corinthiens au début. Mais, Seigneur, montre-moi quelles sont mes petites maladies, etc., qui permettraient que ce souffle de ton amour ne soit pas freiné à la première marche, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Et du coup, peut-être que, vous voyez, vous pouvez regarder ce schéma en vous disant, mais écoute, Seigneur, montre-moi dans ce temps de prière, tiens, quelle est peut-être l'étape, le point que je dois vivre de conversion comme cadeau que je fais à l'autre et à l'Église. Amen.